On revient sur ces désaccords au sein du groupe de Gage. On va aussi à la rencontre du syndicat CSTPFO qui organise des débats demain. Et puis on vous parle d'un gros rendez-vous sportif. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On parle transport maritime pour commencer. Toinois de Gage rebâtit son groupe et le Areti Ferry et il s'en explique.
Oui, on reparle de la scission du groupe de Gage en deux entités. Suite à des différences de vue sur l'exploitation et le management de la flotte, le fils d'Eugène de Gage, Toinois, a rendu à son père la gestion des deux navettes rapides, Areti 5 et 6. Il conserve celle du Areti Ferry 2 et des sociétés qu'il a créées, notamment la Petaille Express. Et il a trouvé le nom de son nouveau groupe et du ferry de Moorea qu'il nous a révélé hier dans ses nouveaux bureaux de la gare maritime.
Alors le groupe va s'appeler Toua Théa. Le Toua, c'est la mer du large, et Théa, c'est quelque chose de pur, de limpide. Et le ferry, on va le rebaptiser Tawati Ferry. Tawati, c'est deux choses qu'on assemble pour en faire plus qu'une. C'est en fait deux coques, hein, le ferry qu'on a assemblé pour faire un bateau, donc il va s'appeler Tawati Ferry. Cette séparation, ça devrait apaiser les relations familiales.
Voilà, on parlera donc désormais du groupe Toua Théa et de son Tawati Ferry. Alors pour rappel, Toinois de Gage travaille dans le groupe familial depuis le début des années 2000. Il a d'abord géré le Areti Ferry 2 avant de prendre les rênes de la majorité des entités du groupe il y a une douzaine d'années. Il dit avoir adopté un changement de management plus collégial pour, dit-il, motiver les équipes. Une réponse indirecte aux reproches que lui a publiquement adressé son père, par exemple sur les augmentations et les primes accordées aux employés. Sa gouvernance a aussi été marquée par de nombreux investissements, dont la construction d'un navire plus rapide, l'Areti 6, mais sans véhicule, pour répondre à la concurrence du Televao sur la ligne vers Moorea. Un choix à l'origine du désaccord avec ses parents, mais qu'il assume avec des arguments économiques et écologiques. Et il considère que l'exploitation en parallèle des deux navettes n'est pas un projet viable, mais c'est pourtant l'option retenue par Eugène de Gage.
Il est, à mon sens, très difficile, voire impossible, de trouver une rentabilité dans cette environnement, sauf à exploser le prix du billet, mais pareil, en augmentant le prix du billet, on diminue le nombre de passagers qui traversent, donc c'est un équilibre assez complexe à trouver.
Et le fossé entre père et fils s'est accentué quand Eugène de Gage a refusé de mettre en location l'Areti 5, qui coûte pourtant une cinquantaine de millions par an en restant à quai. La location qui aurait soulagé les finances tendues de la société, dont Toinois de Gage ne fait pas de mystère.
Nous avions trouvé un client qui voulait bien récupérer le navire tel qu'il était pour le mettre en exploitation en Angleterre. Et finalement, il nous louait le bateau avec une grosse avance sur la location. Donc cette avance nous permettait de payer les dettes de la SNCF Areti, parce que nous avions accumulé des dettes chez les pétroliers, au port autonome, etc. Et surtout, ça nous permettait de gagner du temps pour entamer une réflexion sur le business model de la SNC Areti et de l'Areti 6. Mais malheureusement, mes parents se sont opposés à ce que l'Areti 5 soit loué.
Voilà pourquoi Toinois de Gage a rendu la gérance de l'entreprise à ses parents pour qu'ils puissent dérouler leur stratégie. Il précise que s'il y a un amalgame, ce n'est pas une mésentente familiale, c'est un amalgame donc sur la stratégie à mettre en œuvre. Il ne devrait plus y avoir de rebondissement, chacun va développer ses entités comme bon lui semble, dit-il encore. Alors reste toutefois quelques points noirs dans la relation père-fils sur lesquels Toinois de Gage ne veut pas s'exprimer. Je n'ai pas envie de critiquer mon papa, voilà ce qu'il dit quand on évoque notamment la question des épaves. Des problèmes qui semblent relever de la même difficulté paternelle à se séparer d'un navire quel qu'il soit, mais de façon plus générale, le jeune armateur, qui est aussi président du cluster maritime depuis 2020, déplore que le pays n'aide pas à la profession à recycler ses bateaux, alors qu'il perçoit pourtant une taxe environnementale sur chaque nouvel achat et que ce serait un réservoir d'emplois.
Grande discussion syndicale demain à Pierret.
Oui, la CSTPFO réunit ses adhérents de l'administration et des établissements territoriaux pour des assises de la fonction publique du pays. Le rassemblement organisé autour d'ateliers et de prises de parole, dont celle du ministre de la Santé ou de la directrice de la DSFE, va se tenir dans un contexte social en pleine tension, et pas seulement à cause de l'approche des élections des représentants du personnel de l'administration, organisées début mai, et au cours desquelles Force Ouvrière remet en jeu son titre de premier syndicat du secteur public et du pays. Le contexte, c'est surtout celui d'une grogne de plus en plus audible des fonctionnaires devant les dysfonctionnements de leur administration. Le secrétaire général Patrick Galnon parle d'une perte de confiance des fonctionnaires vis-à-vis de leurs cadres et ministres, d'administration qui perd de pied par manque de cap, d'un problème de gouvernance et de fortes inquiétudes sur les moyens alloués aux services publics. La probable annulation de la réforme fiscale de décembre, même si elle devrait être revotée, le manque de visibilité sur les grandes réformes prévues par le gouvernement, le renoncement à plusieurs grands chantiers ou les accrocs répétés entre l'exécutif l'exécutif et l'Assemblée, eh bien tout ça inquiète beaucoup les fonctionnaires du pays. Patrick Galnon.
Et pour l'instant, on n'a pas de réforme sur la fiscalité ben, proprement dite. Du coup, ben, il nous manque les moyens. Je ne veux pas parler des problèmes qu'il y a actuellement entre l'Assemblée et le gouvernement. Mais il est évident que si le budget du pays n'est pas bien cerné, ou pour des vices de forme ou vices de fond, on a des retards, ça a un impact général sur les 7000 agents publics, sans compter les établissements publics de la police française. Hein.
Et Patrick Galnon avait déjà sonné la fin de la trêve avec le gouvernement Brotherson. Voilà un mois, souvenez-vous, il expliquait ne plus comprendre la politique du gouvernement et dénonçait un immobilisme et même un mépris de l'exécutif pour les fonctionnaires. Le patron de la CSTPFO demandait alors à ses adhérents, du public comme du privé, de se tenir prêts pour une éventuelle mobilisation. Un mot d'ordre qui reste plus que jamais d'actualité. Si nous ne réagissons pas, il y aura des impacts sur l'ensemble de la population. Voilà ce que lance le syndicaliste. Alors dans les faits, des discussions ont bien eu lieu avec le gouvernement, notamment sur la très polémique circulaire sur le contrôle de la masse salariale du pays, mais les engagements ne sont pas là.
Aujourd'hui, on attend encore. Il y a eu des petites actions. On a l'impression que c'est au coup par coup. Et par exemple, par rapport à la circulaire, on est toujours dans l'inquiétude. On m'a quelque peu rassuré en disant « Ah, vous inquiétez pas, pour les services comme la DSFE ou que les services de la santé, on fera des ajustements. » Mais ça, c'est ce qu'on dit. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait une politique ou des politiques publiques bien précises. C'est vrai, ils vont nous répondre qu'ils avaient un programme. Ben, le programme, pour l'instant, il piétine.
Voilà, et si le programme des assises de demain invite à l'échanger, à la réflexion, les travaux sont aussi préparatoires à une mobilisation. Ils pourraient aussi inspirer des revendications qui seraient adressées aux autorités dans les semaines à venir.
Et puis, vous pouvez ouvrir bien grand vos poumons.
Et oui, car d'après une étude, nous respirons l'air le moins pollué du monde à Tahiti. C'est le rapport annuel de l'entreprise suisse IQR qui nous révèle ça, puisqu'elle vient de publier les chiffres concernant l'exposition aux particules fines tout autour de la planète. Alors, 138 pays et territoires ont été analysés, et on apprend donc que la concentration en particules fines à Tahiti est la moins élevée au monde, en moyenne 3,2 microgrammes par mètre cube d'air. Ces chiffres font donc du Fénoua la meilleure élève de cette promotion 2023, même si la moyenne est en baisse, puisque la concentration de particules fines était plus basse encore l'an passé. Et cette année, les îles chaudes, humides et ventilées continuent de truster les premières places de ce classement. On retrouve notamment Maurice, la Grenade, les Bermudes, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et Porto Rico dans le haut du classement. Seuls deux territoires non insulaires figurent d'ailleurs dans le top 10, l'Estonie et la Finlande. Il n'y a que 10 pays qui respectent les normes préconisées par l'OMS qui fixe un seuil de 5 microgrammes par mètre cube d'air au maximum. Et si Tahiti s'en sort très bien, les résultats à l'échelle mondiale sont catastrophiques, alors que l'exposition aux particules fines est responsable, selon l'OMS, d'environ 7 millions de décès prématurés dans le monde par an. 15 pays sont ainsi concernés par une exposition supérieure à 7 fois les normes recommandées. Le Bangladesh, l'Inde et le Pakistan sont notamment les mauvais élèves, tandis que la France est dans le premier tiers du classement, mais reste derrière ses voisins d'Europe occidentale et derrière les États-Unis également.
Il est 7h08 et on termine par ce rendez-vous CrossFit à la fin du mois.
Et oui, il y aura beaucoup de muscles, beaucoup de sueur aussi du 29 au 31 mars au parc Vaihirei. Les Polynesian Battle Games vont réunir 283 athlètes pour enchaîner les épreuves et réussir à décrocher le titre de l'athlète le plus fit de l'année et celui de l'équipe la plus fit de l'année également. Pour Arnaud Kressmann, directeur de Motu Production, organisateur de la compétition, c'est le plus gros événement CrossFit de l'année car il rassemble le plus grand nombre d'athlètes sur le plus grand nombre de jours. Alors ces athlètes, ils viennent de Polynésie, bien sûr, mais également de France et de Nouvelle-Zélande. Répartis en 13 catégories, ils ne seront que le lundi précédant le week-end de la compétition les détails des WOD, WOD pour Workout of the Day.
Alors WOD, c'est donc une épreuve, c'est le Workout of the Day, et ils sont tenus secrets. En général, les compétitions de CrossFit, c'est comme ça que ça se passe. Certaines les dévoilent en amont, ce qui permet aux athlètes de se préparer et de les réaliser plusieurs fois pour être le plus performant possible. Nous, on a décidé qu'on garderait le secret pour vraiment garder la surprise et que les athlètes, finalement, de toute façon, doivent se préparer à tout et être bons dans tout.
Et avec deux athlètes professionnels de métropole comme parrain ou deux speakers spécialisés, les organisateurs promettent des WODs stimulants, une ambiance électrisante et des moments de pure adrénaline et surtout de belles surprises pour les athlètes qui ne savent donc pas à quoi s'attendre.
Les athlètes ont l'habitude de réaliser tout le temps les mêmes mouvements, avec des charges différentes, avec des combinaisons différentes. C'est toujours le même environnement, en fin de compte. Là, quand la première année, on les a amenés sur un parcours du combattant, ils ne savent pas vraiment comment ils vont se comporter, en fin de compte. Il faut gérer sa vitesse, il faut être aussi habile, il ne faut pas se cramer et partir trop vite, il faut gérer sa respiration, sa concentration. Donc, c'est vraiment de les sortir de leur zone de confort, dans les habitudes qu'ils ont d'entraînement, en fin de compte.
Voilà, sur place, 2 à 3 compétitions seront organisées en simultané. Il y aura aussi un espace restauration, des challenges, des initiations. Le grand public pourra donc encourager les athlètes ou essayer également de faire quelques mouvements. Le parc Veyreil sera d'ailleurs réaménagé pour l'occasion. Arnaud Kressmann assure que les Polynésian Battle Games sont bien plus qu'un simple événement sportif. Ils incarnent l'esprit de la communauté, le dépassement de soi et la célébration de la santé et du bien-être. De belles promesses donc, c'est à voir fin mars. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve à 7h30 pour votre revue de presse d'actualité locale.